Espace Santé Gènes.
Et si on en parlait ?
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Espace Santé Gènes et si on en parlait. Animée par les membres de l'équipe de l'Espace Santé Gènes Écoute-Gènes d'Indre-et-Loire, cette émission a pour objectif d'aborder diverses thématiques de santé qui font l'actualité. Je suis Célia Tranchant, accueillante assistante sociale, et aujourd'hui je suis accompagnée de Muriel Ouradou-Petit, qui est opératrice départementale de prévention des conduites addictives. Bonjour Muriel.
Bonjour Célia.
Muriel, est-ce qu'on peut dire que les addictions posent un problème en France au niveau de la santé publique, où les impacts sont multiples, où ils sont sanitaires, médicaux, sociaux ?
Effectivement, tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plus à démontrer que les addictions en France sont un des problèmes majeurs de santé publique, mais pas que. Comme tu le signales, c'est aussi un problème de société. Ça touche aussi au vivre ensemble. Enfin, c'est un problème peut-être que des fois, on réduit à tort que du côté sanitaire, alors que c'est sûrement quelque chose de très multifactoriel.
C'est vraiment une problématique au final qui touche tous les aspects de la vie d'une personne. Que ce soit au niveau médical, au niveau social, ça touche vraiment la personne dans sa globalité au final.
Tout à fait, et puis on en discutera peut-être un peu plus tard, mais on focalise tout de suite sur les addictions qui sont la partie problématique de tout un tas de comportements qui aussi dans notre vie peut bien sûr nous apporter des dangers, des risques, des méfaits, mais nous apporte aussi des bienfaits, notamment du côté du plaisir. Et c'est ce qui rend complexe toute cette question liée aux addictions. Et qu'avant d'en être aux addictions, il y a tout un tas d'usages ou de comportements qui ne sont pas forcément à étiqueter tout de suite du côté de la pathologie ou du danger.
Oui, complètement. On ne tombe pas dans l'addiction tout de suite. C'est quand même un processus assez long. Alors, si on peut reprendre un petit peu ce terme d'addiction, l'addiction, c'est plus un comportement qu'on peut qualifier de régulier, enfin quelque chose en fait dont une personne ne peut plus se passer, ou ça en devient vraiment au final une maladie. On sait qu'il peut y avoir des addictions au niveau des substances psychoactives, mais aussi des addictions au niveau comportemental, avec les jeux d'argent, avec le sport ou toutes ces choses-là par exemple.
Tout à fait. Effectivement, les addictions, c'est presque le côté pathologique du problème, et il me semble important de rappeler que plein de gens, la majorité des gens vont avoir des usages de substances psychoactives diverses et variées, vont pratiquer du sport, vont peut-être jouer aux jeux de hasard et d'argent, et pour autant ne tomberont jamais dans l'addiction. C'est pas parce que on commence à avoir un comportement, qu'on expérimente quelque chose, qu'on serait obligé de finir addict complètement. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi des choses à distancier, et qu'addiction aujourd'hui c'est un peu un terme galvaudé, qu'on étiquette très vite, peut-être trop vite, certains comportements comme étant du côté de l'addiction. Et on voit bien comment, en ayant élargi cette problématique à des comportements autres que des consommations de produits, y compris à certains troubles du comportement alimentaire, on voit bien que pour autant, on a tous besoin de manger, qu'il n'est pas question de considérer que l'alimentation est elle-même pathologique.
Complètement. C'est vrai qu'aujourd'hui, le terme d'addiction, on va dire qu'il s'est un peu banalisé dans la société. Aujourd'hui, on va utiliser ce terme pour tout et pour rien, juste parce qu'une personne potentiellement va user un peu trop de son téléphone, par exemple, si on l'entend très souvent, hein. Les ados sont addicts au téléphone. Souvent, on fait un peu un amalgame entre la consommation, une consommation peut-être parfois un peu excessive, et l'addiction. Et je pense que c'est important de pouvoir revenir aussi sur ces différents termes pour comprendre ce qui s'y joue derrière.
Tout à fait, d'autant que quand on est dans l'échange avec des jeunes sur cette question-là, il me semble, moi, primordial de pas mettre dans le même panier des choses qui sont de l'ordre de l'expérimentation, d'essais, de tentatives, de prise de risque, et de choses qui seraient du côté, au contraire, de consommation, de comportement qui viendrait apaiser de la souffrance et qui pourrait nous inquiéter du côté de la pathologie. Je crois que c'est important de pas être tout de suite du côté de la pathologie, et que la majorité quand même des gens qu'on rencontre sont dans des usages simples où il n'y a pas de problème, sont parfois dans des usages un peu compliqués, mais c'est quand même, et heureusement, une minorité par rapport à la population générale, même si en chiffres bruts, ça fait beaucoup de gens qui sont concernés par une addiction au sens médical. C'est un terme psychiatrique, l'addiction, au sens médical du terme.
Oui, aujourd'hui, on dit que l'addiction, c'est une maladie. Donc,
Tout à fait. C'est reconnu dans les classifications des différentes maladies. On trouve effectivement l'addiction. Pour autant, aujourd'hui, ça C'est un terme, comme on le disait tout à l'heure, très galvaudé, qui est même très tendance. Hein. On peut aussi avoir des fois des connotations très très positives dans le terme d'addiction. Tout un tas de grandes marques très connues usent du terme addict pour vendre leurs produits, parce que ça a aussi au final une connotation parfois qui peut être très positive.
Oui, c'est vrai. Sachant que les addictions, alors si on va prendre par exemple les addictions dans le sens de la maladie, on va dire, comment on peut faire pour éviter qu'un comportement puisse devenir une addiction? Comment on peut parvenir à rester dans l'usage simple sans pour autant que ça en devienne une addiction, une dépendance?
Alors, je crois qu'aujourd'hui, et peut-être juste avant de répondre à ta question, dire aussi, on les oublie souvent, mais il y a aussi des gens, notamment quand on parle de consommation de substances, il y a aussi des gens qui ne consomment pas. Et que ça aussi, c'est important de le dire, tout le monde ne consomme pas les substances psychoactives. Alors, je nuance ce que je dis là, parce que comme tu le disais dès le début, aujourd'hui, dans l'addiction, on rentre aussi tout un tas de comportements, et tout de suite, là, on voit bien qu'on est quand même tous plus ou moins usagers, et qu'on est tous concernés par cette question-là. L'idée, ça va être donc la prévention. Ta question, elle touche à la question de la prévention. On va avoir plusieurs objectifs en fonction des publics auxquels on s'adresse, et notamment où en sont ces publics-là, dans leur expérimentation, dans leur usage ou pas, dans leur quel comportement ils ont ou qu'ils n'ont pas d'ailleurs. Donc c'est important de toujours prendre en compte le public avec lequel on échange sur ces questions-là. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans quelque chose qui évolue du côté de la prévention. On a longtemps été dans il faut informer sur les dangers, il y a les bons et les mauvais produits, les bons et les mauvais usages. Il faut dire informer sur les dangers, être dans la peur parce que ça marchera. Voilà. Donc aujourd'hui, on a quand même tout un tas d'études qui, depuis des années maintenant, nous montrent que ça marche pas parce que ça correspond pas vraiment à la réalité et que l'enjeu principal, ça va être d'être dans une démarche qui va être centrée finalement sur les apprentissages, sur le renforcement des compétences des gens, d'un collectif, alors des jeunes, des plus âgés, des parents, des professionnels qui les entourent, avec un objectif beaucoup plus large qui est du côté de pouvoir acquérir des comportements favorables à sa santé et au bien vivre ensemble. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans une approche beaucoup, beaucoup plus ouverte et globale qui se finalement situe presque plus du côté d'une éducation préventive qu'une prévention qui soit un peu prescriptrice de bons et mauvais comportements, à l'image un peu de ce qu'on fait sur l'alimentation, manger 5 fruits et légumes et tout ira bien. Je schématise un peu, mais voilà, je pense qu'on est en ce moment en train de voir bouger les lignes, avec bien sûr comme objectif de retarder les premiers usages, les premiers comportements compliqués, qu'on sait que notamment à l'adolescence, le cerveau est beaucoup, beaucoup plus vulnérable qu'à l'âge adulte, et que quand des comportements commencent à s'inscrire de manière compliquée à cet âge-là, on sait que ça risque d'être plus compliqué pour la suite. Donc ça, ce sera vraiment un de nos objectifs. Mais après, moi, c'est les objectifs qu'on a aujourd'hui, hein, d'être dans quelque chose de quand même beaucoup plus large et beaucoup plus transversal qui accompagne les gens du côté de la qualité de vie, du bien-être, du mieux-être.
Oui, complètement. C'est vrai que là, on entend souvent, on va dire, de la prévention des conduites addictives auprès du public adolescent, parce que c'est une période de vulnérabilité face à ces substances, face à ces comportements-là. Je reviens un peu sur ce que tu disais. C'est vrai que très souvent, enfin, il y a longtemps, en fait, on était vraiment sur ce côté de faire peur. Des fois aussi avec des témoignages d'anciennes personnes qui consommaient. D'anciens usagers, d'anciennes personnes qui consommaient. Et c'est vrai que, surtout auprès du public adolescent, on sait que c'est au contraire quelque chose qui ne fonctionne pas et qui peut amener un bouleversement aussi, parce que les jeunes sont en pleine construction identitaire et voir une personne qui est un ancien usager, qui va parler de ses consommations, qui va parler de son expérience, et un jeune qui potentiellement a déjà commencé à consommer ou est déjà dans des consommations, on sait que parfois ça peut être compliqué au niveau de sa construction identitaire. Ça peut faire peur, et c'est vrai que la peur par rapport à la prévention, c'est pas ce qui fonctionne. Nous, on voit à l'espace santé jeune, c'est vrai qu'on fait beaucoup d'actions de prévention dans les établissements scolaires. Il y a de l'information, parce que je pense qu'il y a encore parfois beaucoup de mélange dans ce que les jeunes peuvent entendre sous le terme de drogue, sous le terme d'addiction. Souvent, il y a des choses qui sont un peu mélangées, on essaie vraiment de casser aussi un peu les idées reçues, les représentations que les jeunes peuvent avoir sur ces thématiques-là, parce qu'il y en a beaucoup. Même s'ils pensent tout savoir, même s'ils ont déjà eu plusieurs actions de prévention sur cette thématique-là, on voit constamment en fait des choses qui sont encore à reprendre parce qu'il y a des représentations qui restent parfois très fortes. Mais au final, derrière, ce qui est le plus important, c'est vraiment de travailler sur le renforcement des compétences psychosociales, de favoriser l'esprit critique, de favoriser le savoir dire non, d'essayer de travailler un peu sur l'estime de soi et de faire comprendre que toutes ces choses-là sont liées aux futures consommations qu'ils vont avoir plus tard.
Tout à fait, dans ce que tu dis là, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et il y a deux choses qui me semblent importantes, c'est les représentations qu'on peut avoir sur cette question-là, qui sont effectivement, et je te rejoins, l'information, elle est nécessaire, mais on sait qu'elle n'est pas suffisante, donc c'est comment on va au-delà. Et ce qui me semble aussi important de garder en tête, c'est les motivations qui sont derrière ces comportements parfois à risque, parce que c'est souvent très intéressant de partir de ces motivations et qu'il y a aussi, en fonction des comportements, bien sûr, on a des choses qui vont bouger selon les produits ou selon le type de comportement, mais on est aussi dans quelque chose qui est du côté de la socialisation, du être ensemble, du trouver ma place dans le groupe. Donc tout ça, comme tu le dis, c'est très lié aussi à l'estime de soi-même, à comment on va trouver sa place par rapport à un groupe de copains, donc effectivement, c'est en renforçant ces ressources-là qu'on va permettre que les jeunes puissent faire différentes expériences ou être confrontés à différentes propositions, dire non peut-être, mais peut-être aussi des fois dire oui en prenant le moins de risques possible. Et c'est ça, je crois, l'objectif. C'est qu'aujourd'hui, on sait bien qu'on va pas éradiquer d'un coup de baguette magique les substances parce qu'elles ont toujours existé. De plus loin on puisse remonter, on trouve, l'être humain a toujours détourné des substances, des plantes, pour modifier son état de conscience. Donc on sait bien qu'aujourd'hui, c'est comment on fait pour vivre avec et pour pas s'emberlificoter et se faire mal et avoir des dommages de possibles expériences.
Je reprends ce que tu dis, Muriel, sur le côté la sociabilité au niveau des addictions, au niveau des consommations. Et c'est vrai que je pense que la prévention, c'est vraiment une affaire de tous. Où tu l'as très bien dit, il y en a qui vont pas consommer, mais qui vont potentiellement être concernés par ces actions de prévention parce que d'eux-mêmes aussi, ils vont pouvoir apporter ça à leur entourage, à des amis, à des petits copains, à des parents ou même les parents qui vont pouvoir faire des actions de prévention sur leurs enfants. Donc je pense que la prévention, ça concerne pas que les professionnels de santé, mais ça concerne au final toute personne.
Je te rejoins et je pense même que les premiers acteurs de prévention des conduites addictives ne sont justement pas les professionnels de santé, mais les parents, les enseignants, les infirmières scolaires, tous les adultes, les animateurs. Tous ces adultes qui sont au quotidien des jeunes tout au long de leur adolescence et qui, pour autant, sont pas forcément médecins, infirmières ou professionnels de la prévention. Et ça me semble, et les parents, bien sûr. Et ça me semble primordial. Et c'est peut-être une belle conclusion que de se dire que ce n'est pas l'affaire de quelques spécialistes, mais que c'est bien l'affaire de tous de pouvoir échanger, débattre et accompagner sur ces questions-là.
En tout cas, je te remercie beaucoup, Muriel.
Merci, Célia.
Cette émission se termine. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve pour une prochaine émission. N'hésitez pas à nous faire part des thématiques de santé que vous souhaiteriez que l'on aborde sur notre page Facebook espacesantéjeunes.accueilécoutejeunes37. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur le site www.radioactivefm.fr. À bientôt.